Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Il est 20h, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros avec Georges Fenech. Ce soir, bonsoir Georges. Philippe David, animateur des vraies voix de Sud Radio. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Elliot.
Benjamin Morel, maître de conférence
bonsoir, en Elliot.
Droit public. Bonsoir Benjamin. Et Eric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Merci d'être avec nous Eric.
Plaisir.
Vous étiez présent dans l'heure des pros ce matin. Vous avez eu des mots très forts. On était en duplex avec vous. Je vous ai posé la question, est-ce que nous sommes en guerre contre les incendies? Vous m'avez dit oui. Et puisque vous m'avez répondu cela, je voulais absolument que vous soyez sur le plateau pour qu'on passe une bonne dizaine de minutes pour revenir sur cette actualité qui est l'actualité principale, à savoir cette vague d'incendies dans toute la France, mais également ce qu'il se passe en Gironde. On fait un point sur l'information et on va essayer avec vous de décrypter, commenter les images les plus fortes de la journée et comprendre comment 5000 hectares ont pu être ravagés en une nuit. Point sur l'info.
En Ukraine, au moins 6 morts dans des frappes russes sur Barmout, une ville située près du front dans l'est du pays, selon le gouverneur régional. Les Russes ont bombardé la ville au lance-roquettes et touché un quartier résidentiel. 12 immeubles d'habitation ont été endommagés et 4 sont en feu. Le ministère de l'Intérieur dépose un recours devant le Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif de suspendre l'expulsion de l'imam Hassan Ikiyusen vers le Maroc. Cet imam, né en France de nationalité marocaine, est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et anti-femmes lors de prêches ou de conférences. Mais le tribunal administratif de Paris a suspendu son expulsion, estimant qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. L'audience du Conseil d'État se déroulera le 26 août. Désormais 18 départements placés en vigilance orange canicule, une canicule qui gagne la Bretagne, le Finistère et le Morbihan, rejoignent les 16 autres départements de l'Ouest déjà placés en vigilance orange. On a frôlé les 40 degrés aujourd'hui localement dans les Landes. Le pic de ce troisième épisode caniculaire de l'été est attendu en fin de semaine. Un SDF armé d'un couteau abattu par la police à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Les faits se sont déroulés ce matin aux alentours de 8h30. Un sans-abri a menacé des membres du personnel et des passagers. La police aux frontières est alors intervenue. Malgré les sommations, l'individu armé s'est avancé vers les agents qui ont tiré une fois et l'ont abattu.
Cette actualité dans l'heure des pros, pourquoi ? Parce qu'on a un document exclusif qu'on va vous transmettre. C'est le moment où la police intervient. Et vous voyez donc cet individu armé d'un couteau qui fonce vers les policiers. Et les policiers qui interviennent avec leur arme à feu. Commençons avec les incendies. Et là, je me tourne vers vous, Eric Brocardi. Moins d'un mois après l'incendie qui a ravagé 24 000 hectares à Landiras, c'est la thèse de Bûche, la Gironde replonge dans l'enfer des flammes. Plus de 6 000 hectares ont brûlé en l'espace de 24 heures et 10 000 personnes ont été évacuées. Moi, je veux qu'on commence avec l'image qui a peut-être marqué mais tous les spectateurs et peut-être également vous, amis sur le plateau. Regardons l'image. C'est un incendie inédit de par sa virulence, la rapidité et à laquelle il se propage. Et vous voyez donc ce mur de flammes qui s'est formé. Expliquez-nous ce que c'est, comment on peut intervenir face à un tel mur de flammes.
Là déjà, pour situer, c'est certainement le front de feu, d'accord. Donc le front de feu, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie et ce qu'on tente de réduire dans sa longueur pour que justement l'ensemble du sinistre, que ce soit sur la partie flanc gauche que la partie flanc droite, en faisant des actions de jalonnement de chaque côté, ça va être le seul moyen de pouvoir le réduire dans son intensité, dans son évolution vers l'avant.
On va revoir l'image, bien évidemment.
Ouais, ce que l'on voit surtout, c'est que c'est vraiment un mur qui se dresse avec des flammes très hautes. Je pense qu'il y a au-delà de 30, 40, 50 mètres de flammes, impossible à passer. Donc le sujet aujourd'hui, c'est effectivement de prépositionner des engins sur des zones où le feu va avancer en protection de points sensibles prioritairement.
Bon, autre image très importante, puisque plus de 1000 sapeurs-pompiers, 9 avions et 2 hélicoptères bombardiers d'eau sont désormais engagés en Gironde. Ça, c'est le nouveau dispositif. Ça n'était pas le dispositif qu'il y avait hier.
Non.
Et on est vraiment à l'intérieur d'un camion de pompiers. Voyez cette séquence et vous allez nous expliquer un peu ce qui se passe à l'intérieur. Décryptage avec vous, Eric Brocardi.
On est sur une pleine évolution d'une préparation d'une action, soit d'une ligne d'arrêt, soit d'une action de jalonnement. Sur une route donc, qui est une zone à la base pyro-résistante, qui permet à un moment donné, logiquement, que le feu s'arrête. Sauf qu'on s'aperçoit de deux choses. C'est que déjà, d'une part, l'intensité des flammes fait que l'ensemble des moyens, comme on a du mal à distinguer les uns devant les autres, il y a une épaisse fumée, ce qui empêche globalement la visibilité des sapeurs-pompiers de pouvoir s'organiser, d'où l'intérêt d'avoir ces signaux lumineux devant nous en permanence, de pouvoir se diriger parce que vous ne voyez pas à 50 mètres. Le deuxième sujet, c'est regarder, dommage qu'on ne le voit pas, on ne puisse pas l'arrêter, mais quand vous regardez un petit peu en arrière, là, on avait juste au-dessus du rétroviseur, voilà, on le voit là-haut, on voit ces espèces de boules de feu qui partent.
Ouais.
Vous voyez ces feux? Voilà. Ça, c'est ce qui provoque derrière des sautes de feu. En fait, par effet de rayonnement et de convection, il va y avoir tellement d'apports calorifiques à l'intérieur de ce feu, qu'en fait, ce sont les fumées qui s'embrasent et qui vont générer des feux un peu plus loin, poussés par le vent. Donc, là, ce qui est en train de se produire, c'est qu'on va constater nécessairement une saute de feu directement sur la partie droite de la route que l'on ne voit pas et qui va provoquer nécessairement deux choses. Déjà, d'une part, un redéploiement du dispositif et la mise en danger du personnel par ses effets naturels.
On prend la direction du terrain. On va rejoindre Marine Sabourin qui est avec nous, accompagnée d'Olivier Gangloff. Marine, vous étiez et vous avez couvert pour CNews le méga feu qu'il y a eu il y a un mois. Quelle est la situation sur place? On voit énormément de fumée derrière vous.
Oui, on se trouve à Belin-Bélier. Eliott, c'est l'une des trois communes touchées par cet incendie. Donc, comme vous pouvez le voir sur les images d'Olivier Gangloff, nous venons d'assister à un départ de feu donc, qui vient d'être commencé à être éteint par les pompiers. Et donc, il y a énormément de fumée, vous l'expliquiez. Et donc, juste derrière nous, se trouvent donc tous les pompiers. Alors, on ne les voit pas d'ici, ils se cachent derrière les arbres. Et donc, en fait, ils tentent de maîtriser la tête de feu, l'une des têtes de feu de l'Andiras. Et donc, nous, on ne peut évidemment pas y aller puisque c'est bien trop dangereux. Nous n'avons pas le matériel adéquat. Et donc, il y a ces reprises de feu en permanence. Et c'est ce que nous expliquaient les pompiers, ces reprise de feu, qui cause énormément de problèmes puisque il ne peut pas y avoir de stratégie menée le matin puisque il y a en permanence ces vents qui tournent un coup à l'ouest, un coup à l'est, et donc on voit depuis tout à l'heure des canadaires, des dashs qui survolent ces zones pour tenter d'éteindre ce feu. Ce feu, donc, on nous expliquait tout à l'heure, ces pompiers nous disaient que ça allait être très compliqué de l'éteindre. Il va falloir plusieurs mois, 2 mois, voire 3 mois pour tenter de l'éteindre, à moins que la pluie n'intervienne. Mais ce qu'il nous expliquait, c'est qu'il n'y avait pas de prévision météorologique dans ce sens.
Merci beaucoup Marine Sabourin. Merci à Olivier Gangloff qui vous accompagne. On reste sur vos images, bien évidemment, tout au long de cette thématique. Je me tourne vers vous une dernière fois, Eric Brocardi. Ce spectacle de désolation et Marine qui nous explique qu'il faudra peut-être plusieurs semaines, voire des mois, pour maîtriser complètement cette situation.
Souvenez-vous ce qui avait été dit dans la première partie de ce feu. C'est malheureux de parler en chapitre, mais aujourd'hui, c'est le constat. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le contrôleur général Marc Vermeulen, avait évoqué que le feu ne sera pas déclaré éteint avant octobre. Donc, il avait dit. Aujourd'hui, cette notion d'extinction, elle est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'au commun des médias, pour tous les concitoyens, on a l'impression que dès lors qu'il n'y a plus de fumée, plus de flammèche ou quoi que ce soit, que le feu est éteint. Mais pas du tout. Nous, on a encore énormément de travail, parfois de retournement de terre pour aller chercher des points chauds qui résident encore et qui ont la nécessité d'être encore plus noyés, avec effectivement pas mal et beaucoup trop d'apport d'eau sur des zones qui sont extrêmement arides, puisque c'est le sous-sol qui est particulièrement sec, où il faut aller carrément taper les racines parfois des arbres pour éviter justement cet effet de propagation du feu en sous-sol. parce que le feu se propage en sous-sol, mais on va dire parce qu'il a à manger en sous-sol avec ses racines, avec tout le reste des végétaux qui permettent à un moment donné de faire évoluer le feu.
De repartir. On va écouter quelques réactions, notamment du préfet. C'était cet après-midi à 18h. Et il faut saluer l'effort des policiers, des pompiers, pardonnez-moi, qui sont sur place. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce bilan, et ça c'est ce qui est rassurant, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de vie humaine qui sont touchées. On l'écoute.
Notre priorité, c'est la protection de la vie, c'est de sauver les vies. À l'heure où je vous parle, aucune vie n'a été mise en danger. Néanmoins, quelques pompiers ont pu être blessés légers et un, cet après-midi, a été un blessé plus sérieux, plus grave. Mais nous n'avons pas de victimes à déplorer à l'heure où je vous parle.
Autre déclaration et témoignage, cette fois-ci c'est un habitant qui remercie les pompiers dont vous êtes le porte-parole et qui dit heureusement que vous êtes là, il faudrait peut-être plus de moyens. Et ça va être le débat aussi, hein, les moyens.
Bien sûr qu'on est inquiet, on a le feu tout autour de chez nous, mais bon, les pompiers assurent vraiment, ils sont présents pour nous du début jusqu'à la fin. Bravo, bravo aux pompiers, vraiment. Et c'est dommage qu'ils n'aient pas un peu plus de moyens. Cela aurait été vraiment bien.
Peut-être un premier tour de table. Et avec vous, Georges Fenech, quand on voit ces images, ces spectacles de désolation, et finalement, on se sent presque impuissant. C'est-à-dire qu'on pensait que cet enfer des flammes en Gironde était terminé, était derrière nous. C'était il y a quasiment un mois. Et finalement, ça revient encore plus fort aujourd'hui.
Oui, on peut s'interroger parce que ces méga-feux, on n'en avait pas vu depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, bon, il y a la sécheresse, effectivement. Mais qu'est-ce qui explique qu'on ait ces feux à nouveau de cette dimension, de cette importance ? Est-ce qu'il y a un problème d'organisation ? Est-ce qu'il y a un problème d'entretien ? Est-ce qu'il y a un problème d'accès ? Je pense que c'est toutes ces questions qui vont se poser maintenant. Non ?
La difficulté, et ça on l'avait déjà dit il y a un mois, dans le sud-ouest, dans cette zone-là, il n'y a pas de base aérienne pour les forces, pour les pompiers. On est bien d'accord.
Il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre dans le système de base aérienne de sécurité civile. Il y a les bases aériennes de sécurité civile. Vous avez toujours un socle dur. Je dirais, allez, on va très vulgariser. Hein.
Oui, bien sûr.
Vous avez des succursales d'une marque de constructeur et à côté, vous avez des agences. Il y a une succursale qui existe en France, c'est la Nîmes-Garon, qui est le cœur, le centre névralgique de l'organisation de la flotte aérienne de sécurité civile et sur le plan européen. Et à côté, vous avez le déploiement dans certaines zones de pélicandromes. Pourquoi pélicandromes ? Qui peuvent accueillir, à un moment donné, les moyens de type canadair, les jaunes, sur ces zones qui permettent, à un moment donné, de pouvoir venir soit se ravitailler directement, soit procéder tout simplement à certaines remises à niveau. Donc, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, ces déploiements de base sont déjà répertoriés, recensés, sont déjà mis en œuvre. Qu'elles soient aujourd'hui suffisantes ou non, on sait pertinemment que l'origine aujourd'hui de notre culture du feu de forêt, elle provient du Sud, et que l'ensemble des moyens tels qu'ils le sont aujourd'hui sont dimensionnés pour toute la région Sud, qui part tout simplement de la partie Pyrénées-Orientale, voire une partie de la Pyrénée aussi, de toute la chaîne pyrénéenne, qui remonte jusqu'en Lozère, qui va jusque dans les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, et qui redescend les Alpes-Maritimes. Donc tout le pourtour méditerranéen. Donc ça veut dire que globalement, si aujourd'hui vous avez, là on peut le dire, c'est que les Vosges sont en train de brûler, le Jura.
On va voir la carte justement.
C'est que
vous avez 8 feux très importants aujourd'hui sur notre territoire. Non, c'est pas la bonne, mais c'est voilà. Là c'est ce qui s'était passé. Donc l'Andiras et la Tasse de Bûche, c'était ce qui s'était passé le 12 juillet. Moi ce que je veux voir, c'est la carte avec tous les incendies, tous les feux qui sont actuellement actifs sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'on peut voir cette carte, s'il vous plaît ? Et c'était la question qu'on s'était posée déjà il y a un mois avec vous, Éric Brocardi. C'est que, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire de combattre tous les feux avec la même intensité ? La réponse est non, évidemment.
Non, mais la réponse, elle est bien sûr que non. Mais tout à l'heure, vous évoquez ces méga-feux. Pour l'instant, c'est le seul méga-feu classé comme tel. Parce que ce feu-là se génère tout seul. Il se crée tout seul. C'est un monstre qui est sorti de suite de terre et qui, de suite, a provoqué une vitesse de propagation importante. Ça veut dire que, globalement, pour malheureusement faire face à ce type d'incendie qui peut éclore aussi bien sur la partie sud-ouest que maintenant nord-est, que nord-ouest ou autre sur l'ensemble du territoire national, il va falloir continuer à mieux s'armer. Mais fatalité, aujourd'hui, dans le cadre de l'équipement, on prévoyait des renouvellements d'appareils. On prévoit aussi le fait qu'il y a un 7e Dash qui était arrivé justement récemment. Aujourd'hui, on voit que ça ne suffit pas. parce qu'aujourd'hui, on doit faire face.
Écoutez, merci beaucoup, Eric, pour toutes ces précisions. Eric Brocardi, je rappelle que vous êtes porte-parole des sapeurs-pompiers de France, mais je pense que les téléspectateurs commencent à vous connaître. On se retrouve demain matin à 9h. Pourquoi ? Parce que demain, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin seront sur place. Ils vont se rendre en Gironde pour faire un nouveau point. La nuit s'annonce compliquée ou pas ?
Oui, la nuit va s'annoncer très compliquée pour ces hommes et ces femmes qui luttent, parce qu'on n'y voit rien, parce qu'on va être en alerte permanente, parce qu'ils ont tous besoin de se reposer aussi à un moment donné. Il va falloir réactiver, procéder aux relèves. Il y a des tensions qui commencent à se créer dans les équipages, et c'est normal, la fatigue est là. Voilà, le sujet aujourd'hui, c'est de maintenir ce potentiel. Je vous rappelle une chose, c'est que lorsque l'on est sur le terrain, les chefs qui sont sur le terrain font preuve à la fois de commandement et de management. Et ça, aujourd'hui, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte aussi pour à la fois doser l'esprit d'équipe et l'esprit de corps qui règne sur ce type d'opérations et en même temps faire en sorte que les actions se déroulent très rapidement et simplement.
Merci beaucoup Eric Brocardi. Vous avez cédé votre place à Vincent Roy. Je pense qu'on a été suffisamment clair pour les téléspectateurs concernant les incendies. On a énormément de thèmes ce soir. Je vous parlais de cette opération, en tous les cas cette intervention à l'aéroport de Roissy ce matin. Un homme a été neutralisé par les forces de l'ordre, par un tir de policier après avoir... Cet homme avait brandi un couteau et menacé ces mêmes forces de l'ordre. On va découvrir les images de l'intervention. C'est on n'a pas encore les images, donc on le verra un tout petit peu plus tard. Je vous présente mes excuses parce que je vous annonce quelque chose qui viendra un peu plus tard. Autre thématique peut-être dans l'actualité, c'est l'autre information du jour. Elle concerne l'imam Hassen Iqwisen. Le Conseil d'État va donc auditionner les parties le 26 août prochain et doit rendre son arrêt 48 heures après, ce qui nous renvoie donc... Si je m'abuse, donc c'est vendredi 26, j'imagine qu'on laisse le week-end, donc c'est soit lundi, soit mardi.
C'était annoncé 28.
28, donc le 28. Donc délibéré, ça veut dire le dimanche.
Le délibéré sera 28. Rendu le 28.
Le 28. On voit le sujet de Solène
Boulan. Parce qu'ils ont 48 heures pour statuer.
Donc ils travaillent même le week-end. Oui. Tant mieux. Solène Boulan, et ensuite on en parle.
Le sort de l'imam Iqwisen est désormais entre les mains du Conseil d'État. L'audience aura lieu le 26 août, en présence des différentes parties. Face au ministère de l'Intérieur, Hassen Iqwisen, prédicateur religieux dans le viseur des autorités françaises, fiché S depuis 18 mois. Vendredi dernier, le tribunal administratif de Paris avait suspendu son expulsion, expliquant qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le ministère de l'Intérieur reproche à l'imam un discours prosélyte, porteur d'une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République française, et un discours à teneur antisémite particulièrement virulent, prônant la soumission des femmes au profit des hommes. Hassen Iqwisen, 58 ans, a toujours vécu sur le sol français avec un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 3 juin dernier. Le ministère doit désormais procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 3 mois. Après l'audience, le Conseil d'État aura 48 heures pour rendre sa décision et décider ou non de l'expulsion de l'imam.
Bonsoir Vincent Roy, merci d'être avec nous. Première question pour vous, les derniers éléments concernant Hassen Iqwisen, fiché S depuis 18 mois, radicalisé selon le ministre de l'Intérieur, qui est soupçonné d'être un marchand de sommeil. Est-ce que ces éléments-là, selon vous, vont permettre d'inverser la tendance administrative, c'est-à-dire que le Conseil d'État va dire cet homme doit être expulsé?
C'est du moins ce qu'on peut espérer, à minima. Il est bien évident que tolérer un individu de ce calibre sur le territoire n'est pas fait pour nous réjouir. Donc on a très envie que ce soit magnifiquement plaidé au Conseil d'État et que, évidemment, le plaideur du ministère de l'Intérieur fasse ressortir tous ces éléments de manière à infléchir la décision du tribunal administratif. Ça paraît ressortir d'une certaine évidence.
Georges Fenech.
Oui, il faut rappeler qu'il s'agit d'une audience qui porte sur l'exécution de cet arrêté. Effet suspensif ou pas. Est-ce qu'on doit suspendre l'arrêté en attendant un jugement sur le fond de cette affaire, savoir si effectivement cet arrêté d'expulsion est conforme à la loi française?
Pardonnez-moi, Georges, je n'ai pas compris. Répétez et essayez d'être le plus vulgaire possible.
On est sur une procédure d'urgence.
Oui.
On est un référé liberté. C'est-à-dire c'est une procédure d'urgence pour dire il faut suspendre l'exécution de cette expulsion. C'est uniquement là-dessus que porte le débat en ce moment. C'est ce que le tribunal administratif a dit oui, compte tenu de l'atteinte importante à la liberté individuelle de l'individu en question, on suspend l'exécution. On ne dit pas qu'on annule l'arrêté.
Oui.
C'est ça que je suis en train de vous dire. On suspend son exécution.
Non, mais le Conseil d'État va dire...
Le Conseil d'État...
D'accord, mais en l'espèce, la décision du Conseil d'État va entraîner soit son expulsion, soit son maintien en France.
Si le Conseil d'État référé liberté, le Conseil d'État dit effectivement... il n'y a pas de raison de faire droit à ce référé liberté. L'arrêté d'expulsion est exécutoire de ce moment-là.
Philippe David.
C'est sûr que là, la pression est maximale sur le Conseil d'État. Puisque, alors là, je vois mal comment, au cas où le Conseil d'État validerait la décision du tribunal administratif, comment Gérald Darmanin pourrait rester en poste. Là, je ne vois pas comment il pourrait rester. Après le Stade de France, après le tribunal administratif, si le Conseil d'État ne valide pas l'expulsion de l'imam Iqi Houssen, qui nous a été annoncée avec tambour et trompette depuis des semaines, la décision du Conseil d'État, elle est peut-être juridique, et dans ce domaine, je laisse notre ami Georges Fenech s'exprimer, il est bien plus compétent que moi, mais elle sera avant tout politique.
Je pense que les téléspectateurs qui nous regardent, c'est le cadet de leurs soucis, l'avenir ou non de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que l'État est susceptible, ou en tout cas apte, peut se défendre contre l'islam politique. C'est ça la question qu'il se pose.
C'est la question.
Donc, Gérald Darmanin, son avenir, s'il va rester, s'il va pas rester, s'il va se présenter en 2027, c'est pas l'élément clé.
Mais la décision sera, à mon avis, avant tout politique.
Oui, non, je suis pas sûr qu'elle soit éminemment politique, cette décision. Georges Fenech l'a bien dit, en réalité. On est face à un référé liberté. C'est-à-dire que si le juge décide, de ne pas faire droit à la demande du ministre de l'Intérieur, c'est tout bêtement que, il considère que les éléments ne sont pas assez probatoires, qu'ils ne sont pas assez fondés et qu'à partir de là, il faut laisser le temps, justement, à un débat contradictoire de fond de s'opérer.
Voilà.
Donc, si vous voulez, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'expulsion à terme.
Voilà.
Ça veut dire simplement que, pour l'instant, on attend de voir, avec un jugement au fond, quels vont être les arguments des partis et des autres. Ça signifie une chose d'un point de vue politique, que probablement, le ministère de l'Intérieur aurait dû mieux fonder, mieux appuyer son dossier pour que, il n'y ait pas de référé liberté qui aboutisse.
Vince.
Mais en soi, la décision du Conseil d'État, l'arrêt du Conseil d'État ne sera pas...
C'est un tournant.
Oui, mais ce ne sera pas le point définitif de cette affaire.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut se passer après ?
C'est-à-dire qu'ensuite, si jamais le référé n'aboutit pas, il va y avoir un jugement au fond, et que ce jugement au fond...
Donc ça va encore... En fait, ça va prendre des mois.
Ça peut durer plusieurs mois.
Vincent Roy.
Non, mais ça fait 20 ans, que cet imam tient des propos homophobes, antisémites, enfin tout ce que vous voulez. Ça fait 20 ans qu'on attend. Il y en a marre d'attendre. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que nous avons les armes pour combattre l'islam politique ? Les a-t-on ou ne les a-t-on pas ? L'argument de l'état de droit, alors vraiment, je l'entends parfaitement, mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est a-t-on véritablement, est-on armé contre l'islam politique ? Est-on armé contre les frères ?
Robert Ménard d'abord. Robert Ménard qui était notre invité il y a de cela une heure et qui a réagi sur justement cette décision qu'on attend du Conseil d'État.
L'excuse qu'on lui trouve, c'est « Ah, le pauvre, il a 5 enfants et 15 petits-enfants, mais je m'en contrefous de ses 5 enfants, de ses 15 petits-enfants et de sa vie privée. C'est juste quelqu'un qui est un danger pour notre pays. » Alors moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que M. Darmanin gagne. Et j'applaudis à tout ce qu'il fait maintenant. Après, je pourrais rajouter qu'il était temps de se réveiller du côté de la Macronie, qu'ils ont donné tout un tas d'armes pour se faire battre ces 5 dernières années, mais c'est un autre problème. Je ne veux pas mélanger les choses. Aujourd'hui, celui qui protège la France, c'est M. Darmanin. Celui qui menace la France, c'est cet imam. C'est ça, la réalité. À partir de là, on choisit son camp. Et moi, oui, mais encore, ce n'est pas notre tasse de thé, M. Darmanin, tout. Honnêtement, ce n'est pas le moment. Oui, il joue gros, mais c'est surtout notre pays, mon pays, votre pays qui joue gros.
Georges Fenech, je me retourne vers vous et vraiment j'ai besoin que ça soit clair. Je suis peut-être un peu fatigué et j'ai peut-être pas les yeux en face des trous. Moi j'avais compris que le 28 août, on allait savoir si Hassen et Iqi Houssen allaient quitter le territoire français ou allaient rester sur le territoire. Je me trompe.
Mais si le Conseil d'État confirme la décision du tribunal administratif, il reste sur le territoire en attendant le procès au fond. Si le Conseil d'État infirme, c'est-à-dire dit que le tribunal administratif s'est trompé, à ce moment-là, l'arrêté peut être exécuté immédiatement. Mais ça ne veut pas dire que plus tard, cet arrêté ne soit pas annulé et qu'il soit...
Mais par qui ? Annulé par qui ?
Mais par la juridiction administrative.
Parce qu'en fait, on va reprendre... On vient avoir encore une histoire administrative.
Moi, je voudrais quand même rappeler une chose à ce stade. Ce que j'entends dire, gouvernement des juges, c'est une décision politique du juge administratif. Mais qui a fait la loi de 2003, sinon le politique, qui a prévu que des étrangers qui présentent ce profil, d'ailleurs, soient protégés d'une expulsion, c'est-à-dire père d'un enfant français. Non, mais ça vous intéresse pas
je... Si, ça m'intéresse, Georges, mais je suis perturbé parce que je ne comprends pas, en fait. C'est ça que... Elliot. Pardonnez-moi.
Elliot, je crois que ce que vous ne comprenez pas, ce qu'on ne dit pas assez, en tout cas, c'est que le juge administratif applique la loi française. Et c'est d'ailleurs sur cette loi que le ministre de l'Intérieur nous a promis une réforme à la rentrée, c'est-à-dire supprimer ces protections des étrangers actuellement protégés.
Bon, vous êtes, que ce soit Benjamin et Georges, vous êtes des techniciens. Attendez, on va demander aux non-techniciens, est-ce que vous avez compris Vincent Roy et Philippe David, si oui ou non Hassan Iquissen quitte le territoire une fois la décision rendue ?
Moi, j'avais compris que le 28 août, comme la date était tombée aujourd'hui, c'était la date butoir. Si les conseils d'État invalidaient la position du tribunal administratif, qu'il était expulsé. Moi, c'est ce que j'avais compris.
Alors, en deux mots, si vous voulez, vous avez ce qu'on appelle des procédures de fond.
Des émissions lunaires.
Ouais, mais c'est un cours de droit, c'est bien.
Justement. Mais
vous avez, des procédures de fond. Ces procédures de fond, elles vous conduisent à juger au fond une affaire. Et ça n'empêche pas que l'État peut prendre un certain nombre de normes qui vont être tout de suite exécutoires. C'est-à-dire qu'avant même d'attendre le jugement au fond, l'arrêté va pouvoir être directement exécuté, en l'espèce, un arrêté d'expulsion. Donc avant même d'attendre le jugement au fond, vous expulsez la personne qui pose problème. Mais face à ça, elle a des armes, cette personne. Elle a ce qu'on appelle l'arme du référé. Le référé, ça permet, en 48 heures, en allant très très vite le référé liberté, de couper court à l'exécution de l'acte, en attendant justement que l'affaire soit jugée au fond. Là, ce dont on parle depuis quelques jours, c'est justement cette procédure de référé. Pas la procédure au fond qui aura lieu après.
Parce la publicité. J'espère vraiment que les téléspectateurs, pendant qu'ils vous ont écouté, ont pris un petit Doliprane. Quand
très
même.
Solide. Ça donne mal à la tête, votre histoire. Il y a des arguments très solides pour que l'expulsion ait lieu.
Allez,
ça, je tiens à
la
lire.
Pub.
Mais d'ailleurs, il est où, cette image ?
Il est quasiment 20h30, la deuxième mi-temps. J'espère que vous avez pu souffler un peu après ces cours de droit technico-technique. Non, mais je vous jure, je suis encore perturbé. Donc, on va être très clair et je me tourne vers vous, Georges Fenech.
Dernière fois.
Et vous m'arrêtez si je me trompe. Très bien. Le ministre de l'Intérieur a voulu rendre un avis d'expulsion, entre guillemets, signer un avis d'expulsion pour Hassan Iquissen. C'était...
arrêté d'expulsion.
Un arrêté d'expulsion, si vous voulez. Cet arrêté a été retoqué par le tribunal administratif.
Non. C'est son exécution, cet arrêté qui a été...
Bon, écoutez, je laisse tomber.
Okay. C'est-à-dire l'arrêté...
Bon, ok, très bien.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est assez peu probable que, que l'arrêt du Conseil d'État soit le point final à cette affaire.
Le JT. Bon. C'est un running gag. Le JT.
Un homme recherché pour deux viols commis dans un hôpital à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Les deux femmes sont âgées de 68 et 77 ans. Elles ont été violées par une même personne à 30 minutes d'intervalle dans la matinée du 27 juillet. Le suspect en fuite est étranger au centre hospitalier. Une enquête a été ouverte. Elle est devenue célèbre pour avoir interrompu le journal télévisé d'une chaîne d'État russe avec une affiche contre l'offensive en Ukraine. La journaliste russe Marina Ovsyannikova a été arrêtée et placée en détention provisoire à Moscou pour avoir discrédité l'armée. Une enquête a été ouverte contre elle pour diffusion de fausses informations sur l'armée russe. La journaliste encourt 10 ans de prison. Et puis Donald Trump auditionné à New York, l'ancien président des États-Unis a gardé le silence face à la procureure générale qui l'auditionnait pour des soupçons de fraude financière au sein de son groupe Trump Organization. Donald Trump est visé depuis 2019 avec deux de ses enfants par une enquête au civil de la plus haute magistrate de l'État de New York.
Voilà pour le journal de l'information. Est-ce qu'on retente une dernière
fois ?
S'il vous plaît.
Non, là, vous êtes recalé, Elliot. Recalé.
Est-ce qu'on retente ?
Je suis sûr que ceux qui nous écoutent ont compris une décision provisoire qui est prise.
Georges,
c'est pas la procédure définitive.
Votre histoire de bulldozer avec la maison est très claire.
Ah oui.
Vous pouvez l'utiliser.
Non.
C'est très bien, ça.
Non, mais ça.
Écoutez,
hors antenne, effectivement, je donnais un autre exemple plus compréhensible. Par exemple, il y a un arrêté de démolition de votre maison, défaut de permis de construire. Vous faites un référé liberté, ne démolissez pas, je considère que mon permis est valable. Un référé liberté, on ne démolit pas, et ensuite, on statue sur la validité de ce permis de construire. Voilà. S'il n'y avait pas de référé liberté, la maison serait détruite.
Voilà. Et on ne peut plus revenir en arrière.
On ne peut plus revenir en arrière. Voilà, c'est ça, un référé liberté.
Bon, et ben c'est voilà. Plus clair. Ah. Et ben voilà. C'est comme ça. Voilà. Et c'est avec le sourire. Voilà. Et c'est avec le sourire. Un grand merci, Georges. Et vous savez que vos analyses sont toujours précises. Revenons sur cette image et le document exclusif CNews. Et c'est une actualité qui est très lourde, puisqu'un homme a été neutralisé ce matin à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle par un tir de policier, après avoir brandi un couteau. On va voir l'image ensemble et menacer les forces de l'ordre. Alors, vous voyez donc les forces de l'ordre qui mettent en joue la personne parce qu'elle a un couteau dans la main et elle tente de lancer, d'abord d'attaquer les forces de l'ordre, et puis après, vous allez voir, elle essaye de lancer son couteau qu'elle a dans la main droite. Deux enquêtes de flagrance ont été ouvertes, l'une pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et confiée à l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN. C'est-à-dire, c'est une procédure qui est normale. Dès qu'il y a utilisation de l'arme à feu, Georges, des policiers, IGPN saisit.
Oui, une enquête administrative pour savoir dans quelles conditions il y a eu usage des armes.
Difficulté effectivement pour les
armes. Normal.
On sait à quel point il est difficile aujourd'hui pour les forces de l'ordre d'intervenir, qu'elles sont de plus en plus sollicitées dans des cas aussi complexes. C'est-à-dire que là, vous êtes à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui est un aéroport avec énormément de monde. Vous avez un homme qui arrive avec un couteau à la main, qui fonce vers les policiers. Intervention des policiers. Vincent Roy. Il n'y a pas vraiment de débat, d'ailleurs. Non. Mais d'avoir l'image nous permet de comprendre un peu.
Ces images sont terribles, quand même. Hein.
Oui.
C'est des terrible. Images...
Oui, les images sont terribles, d'autant qu'après avoir été touché, a priori, par un tir, l'homme essaie, c'est ce qu'on voit sur les images, il essaie encore de lancer son couteau, de lancer le couteau vers les policiers. C'est-à-dire que c'est effectivement assez terrible de voir ces images-là, oui.
Georges Fenech, sur la difficulté aussi qu'ont les forces de l'ordre à intervenir et... Vous savez,
le cadre légal, vous le connaissez, je ne vais pas en faire du droit, mais le cadre légal, c'est légitime défense. Les services de police, à partir du moment où leur propre vie ou celle d'un tiers est en danger, là, manifestement, vous voyez bien qu'il est porteur d'une arme blanche, qu'il essaie de s'en servir, qu'encore blessé, il continue à essayer d'avancer sur les policiers, qui n'ont pas d'autre solution, et c'est malheureux, mais n'ont pas d'autre solution de le neutraliser, comme l'on dit.
Peut-être Benjamin Morel sur la difficulté pour les forces de l'ordre qui doivent intervenir régulièrement maintenant avec des hommes qui sont armés, qui brandissent des couteaux, qui foncent vers elles, et c'est des situations qui malheureusement se répètent.
Alors c'est des situations qui malheureusement se répètent, qui ont toujours existé mais qui sont de plus en plus fréquentes. C'est ce qui est difficile aujourd'hui pour les forces de l'ordre. Et là on voit tout de même un cas qui visiblement est tout de même assez singulier. Je ne suis pas sûr qu'il soit fondamentalement représentatif de ce qu'elles peuvent vivre au quotidien, mais on a malgré tout une mise en danger de ces forces de l'ordre qui devient quotidienne, ce qui en réalité crée et explique également une partie de la crise de vocation au sein de ces forces de l'ordre. Donc là, entre guillemets, si jamais vous voulez régler fondamentalement cette situation-là, vous ne pouvez pas passer que par une phase qui va être une phase de répression, c'est-à-dire que vous avez besoin d'extirper cette violence de la société. Et pour extirper cette violence de la société, il faut agir sur ce qui la cause, c'est-à-dire à la fois une forme d'ensauvagement dont on parle beaucoup, mais également les trafics qui la sous-tendent. Là, encore une fois, hors contexte, il est difficile d'en dire plus sur ces images.
Deux enquêtes qui ont été ouvertes, je le disais, donc les GPN qui a été saisie. La deuxième, c'est pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Les faits se sont déroulés au terminal 2F vers 8h20. On est en plein été. Vous imaginez, bien sûr, le monde le matin et donc cette intervention des forces de l'ordre, donc à 8h20, un SDF qui importunait des agents de sécurité, la police aux frontières, qui a été appelé en renfort pour le faire évacuer. C'est au moment où ils ont tenté de le faire évacuer qu'il a brandi son arme. C'est rare aussi qu'on ait les images, qu'on arrive à voir comment les forces de l'ordre opèrent.
Puis n'oublions pas, parce que malheureusement il y a beaucoup de morts par coup de couteau en France ces derniers temps, qu'un couteau n'est pas une arme létale seulement quand elle est portée. Oui. Au corps à corps, mais qu'un lancer de couteau, c'est bien absolument sûr. Terrible. Un couteau, c'est bien lancé, tue quelqu'un sans... Enfin, il y a un risque... C'est une arme létale, totalement létale. Oui. Donc à l'époque, on a changé la légitime défense, je crois, pour assortir celle des policiers sur celle des gendarmes. Oui. Ils n'auraient pas eu le droit de tirer, parce qu'on n'avait pas le droit de riposter avec une arme à feu face à une arme blanche. Mais là, comme le disait Georges, manifestement, comme leur vie est en danger, c'est la légitime défense qui primera.
Autre thématique ce soir, petite parenthèse sur le droit de vote des étrangers, mais c'est lié au sujet Hassan Iquissen. La proposition de Sacha Houlier d'accorder le droit de vote à des étrangers extra-européens permettrait, et c'est un fait, aux Anglais par exemple, voter pour les municipales, mais également à des personnes...
C'est ce qu'ils commettent au Stade de France, les Anglais. Oui. Voilà. Pas du tout une bonne idée.
mais aussi à des personnes comme Hassan Iquissen. Et c'est ce que dit, c'est l'exemple que prend Laurent Jacobelli ce matin, député du Rassemblement National. Écoutez Laurent Jacobelli.
Vous vouliez, l'imam Iquissen, qui est donc marocain et qui prêchait la haine dans le nord de la France, aurait pu avoir le droit de vote pour ce député. Non, je crois qu'on a franchi les limites de l'indécence et de l'incompréhension de ce que demandent les Français. Vous savez, trois quarts des Français disent que dans notre pays aujourd'hui, il y a trop d'immigration, qu'il faut la réguler. Monsieur Houlier semble, lui, vouloir le phénomène inverse, c'est-à-dire que donner encore un droit supplémentaire à des étrangers qui touchent déjà un certain nombre d'aides sociales, qui ont déjà un certain nombre de faveurs, notamment en termes de logement, et qui pourraient en plus voter. Tout cela nous paraît un petit peu anachronique, mais surtout ça révèle les vraies pensées du gouvernement. Parce que il est quand même président de la commission des lois, c'est pas un député lambda. Et au moment où la première ministre décale dans le temps le projet de loi immigration de Monsieur Darmanin, eh bien le seul acte législatif concret, vous avez, c'est cette proposition.
Vous avez de loi, aussi. Vous avez... Est-ce que de brandir le cas Iquissen, ça met fin au débat sur le droit de vote des étrangers, Philippe David?
Ça met pas fin au débat, mais moi je crois qu'il y aurait une solution pour réconcilier tout le monde. C'est une proposition qui date de 1981. C'était dans les 110 propositions de François Mitterrand. Ça fait 17 ans qu'on n'a plus utilisé une chose, ça s'appelle le référendum. Si on faisait un référendum, si on demandait la parole, si on donnait la parole aux Français, on leur dirait « Voulez-vous donner le droit de vote aux étrangers pour les élections municipales ?» Si je pense que là, tout le monde serait d'accord pour un référendum.
Mais si ce texte devait aller plus loin, il passerait par référendum. Enfin, quelques points de procédure, c'est une proposition de loi constitutionnelle. Donc, un, il faut modifier la Constitution, ce qui implique que ça ne passera jamais, il ne faut pas se mentir. Oui. Le Sénat va dire non et le Sénat a un droit de veto. Et quand bien même le Sénat dise oui... Ça implique, comme c'est une proposition de loi, c'est un peu technique, mais qu'il y ait un référendum. Donc en réalité, je crois qu'il ne faut pas en faire beaucoup plus, entre guillemets, sur ce sujet. C'est-à-dire que là, si jamais ça va plus loin, ça sera bloqué. Mmh. Et l'objectif ici est, pour l'aile gauche de la majorité, de se rappeler au bon souvenir d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne et d'exister face à Gérald Darmanin.
Georges Fenech.
Il faudrait modifier l'article 3 de la Constitution. C'est pas... Non, moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que l'initiative, elle est très personnelle et elle vient effectivement du président de la Commission des lois. Ça, j'ai rarement vu un président de la commission des lois qui, d'initiative personnelle, tout seul, décide comme ça une proposition de loi aussi.
Rappelons qu'il est très proche d'Emmanuel Macron.
Ça, c'est ça qui est... Alors, est-ce qu'il l'a vraiment fait totalement seul ou bien est-ce qu'il est quelque part un peu téléguidé? Je n'en sais rien, mais toujours est-il que c'est quand même très, très surprenant.
Vincent Roy, c'est juste une petite parenthèse sur cette thématique, parce que la déclaration de Laurent Jacobelli est assez intéressante.
Mais ce qui est intéressant, c'est le timing. C'est dans l'état actuel des choses, on fait une loi, donc M. Darmanin prend aujourd'hui beaucoup de place, certains vont penser, dans sa majorité même, qu'il prend trop de place, et donc à gauche, on rétablit, on fait le en même temps, un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, c'est purement, là vraiment, c'est purement tactique, ça n'aboutira pas, voilà.
Mais c'est peut-être un coup de pied de l'âne de l'Élysée vis-à-vis de...
Alors, on n'en sait rien, absolument. On n'en sait rien, mais c'est rien. C'est la question qu'on peut se poser.
Fin de la parenthèse. En juin dernier, le Conseil d'État a confirmé l'interdiction du port du burkini dans les piscines municipales à Grenoble. On est bien d'accord.
Et
on
a dit que
on a, là, pour le coup, j'ai les yeux en face des trous. On est bon. Oui. Très bien. C'est écrit, d'ailleurs, noir sur blanc. Et j'invite les téléspectateurs à aller sur le site du Conseil d'État. Voilà ce qui est écrit. Le Conseil d'État confirme la suspension du règlement intérieur des villes, des piscines de la ville de Grenoble autorisant le port du burkini. C'est écrit noir sur blanc. On est d'accord. Tout le monde l'a compris. On est d'accord. Tout le monde sauf juste une personne.
Oui, Monsieur Piolle.
Monsieur Piolle. On écoute Monsieur Piolle.
Qui a interdit le Conseil d'État, c'est les jupettes qui descendent sur les jambes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont considéré que c'était une dérogation excessive par rapport à l'interdiction des shorts qui était faite également dans les piscines de Grenoble, qui est faite là pour des raisons d'hygiène. Donc à Grenoble, vous pouvez, suite à la décision du Conseil d'État, vous baigner en burkini. Mais il y avait également ce jour-là une femme qui était seins nus. Vous pouvez maintenant vous baigner également seins nus. Les règles sont les mêmes pour les hommes et les femmes. À Grenoble, c'est une question d'égalité femmes-hommes, de respect, vu de nos lois fondamentales et de la loi de 1905.
Il se moque de qui, Philippe David, Alors, Éric Piolle ?
Ce que je trouve extraordinaire, c'est que pour l'expulsion de l'imam Iqiyoub Sène, j'y reviens, les élus d'Europe Écologie Les Verts ou de la France Insoumise disaient que expulser l'imam Iqiyoub Sène de cette manière, c'était un scandale parce que l'État de droit devait lui permettre d'utiliser les recours. Et là, il y a une décision du Conseil d'État, qui est quand même une haute juridiction en France, et on piétine la décision du Conseil d'État. Alors, je me demande si c'est pas un peu l'état de droit à géométrie variable pour Éric Piolle. Je me pose, peut-être suis-je mes 10 ans, vous me direz.
Georges Fenech.
Non, c'est assez consternant, effectivement, qu'un élu ne respecte pas, dans la lettre et dans l'esprit, une décision du Conseil d'État. Alors, que faut-il faire ? Est-ce que le préfet doit à nouveau saisir le Conseil d'État, le tribunal administratif et le Conseil d'État ?
On est reparti
pour un décision,
tour.
Avec ce nouveau règlement qui a été remodifié, tout ça est consternant. On voit bien qu'il y a...
Il y a une autre option, hein, d'ailleurs.
Oui.
C'est que ça soit qu'il y ait une loi qui interdise le burkini dans la piscine municipale. C'est ça. Et c'est peut-être plus intéressant parce qu'au moins les masques tomberaient. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde, à l'Assemblée nationale, on verrait qui est pour, qui est contre le port du burkini dans la piscine municipale.
Il y a certains élus, notamment d'opposition, Alain Carignon à Grenoble, qui, eux, demandent carrément qu'il y ait une sanction administrative, une
c'est
sanction
politique.
Oui, c'est possible, mais est-ce que je pense pas que ça
possible,
soit.
Enfin, là, vraiment,
c'est... Benjamin Morel. Ouais.
Ouais, j'irai plus loin que Georges, c'est-à-dire que, en fait, il essaye de respecter la lettre du droit, parce qu'en réalité, il essaye de dire, voilà, s'il y a une dérogation pour des questions de laïcité, c'est une dérogation aux règles d'hygiène. Donc, on va mettre le burkini à la même enseigne d'hygiène que les autres maillots de bain, et donc, grosso modo, on pourra quand même avoir du burkini, ce qui en fait est une trahison de l'esprit. C'est mais ça. Tout en tentant de contourner, de faire, comme on le disait l'autre jour sur Iquicène, du l'aïkido, du judo par rapport à ça. C'est-à-dire que, encore une fois, ils sont malins. Je veux dire, ce sont des gens qui sont extrêmement malins, qui connaissent bien notre droit et qui tentent justement d'utiliser les failles de ce droit pour imposer leur idéologie. Benjamin. Et ça, en effet, c'est paradoxalement assez paniquant parce que c'est plutôt intelligent.
Oui, mais ce qui me fait peur, Benjamin, c'est que vous avez eu ce discours-là pour les personnes qui alimentent l'islam politique.
Je vous dis qu'ils sont intelligents. Et ils savent très très bien gérer.
J'ai de la crainte, c'est-à-dire que vous êtes en train, entre guillemets, de me dire que les méthodes des porte-parole de l'islam politique en France, ces méthodes-là sont utilisées également par un maire d'une ville comme la ville de Grenoble.
Alors, dans quelle mesure Éric Piolle reprend des analyses qui lui sont fournies ou dans quelle mesure il les produit lui-même, je ne sais pas. Mais en effet, vous avez là... avec Éric Piolle, un exemple de clientélisme électoral.
Et d'ailleurs, le Conseil d'État l'avait là aussi inscrit noir sur blanc, puisque le Conseil d'État estime que la dérogation très ciblée apportait pour satisfaire une revendication religieuse. C'est une traduction, le clientélisme sous toutes ses formes.
D'où ma question Vincent de Roy. Tout à l'heure. A-t-on les armes pour combattre l'islam politique?
Ah bah quand l'État veut, l'État peut. Sur le port du burkini, il y a eu la loi séparatisme. La loi séparatisme permet au ministre de l'Intérieur d'enclencher cette interdiction du port du burkini, tribunal administratif qui valide, conseil d'État qui valide.
Mais, sauf
quand
que,
l'État veut, l'État peut.
Sauf que, oui, mais sauf que là, on est dans un cas où, manifestement...
Il faut toujours matérialiser un fait qui soit contraire à la loi.
Oui.
Vous ne pouvez pas dire que l'islam politique est interdit en France. Vous ne pouvez pas.
Non.
Vous ne pouvez même pas aller devant une juridiction pour ça. Il faut trouver le fait précis ou le propos précis qui, effectivement, non seulement est politique, mais en plus est contraire à la loi et tombe sous le coup de la loi. Vous voyez la complexité de ces poursuites et M. Darmanin en fait l'expérience aujourd'hui.
C'est tout le problème qu'on a avec ces prédicateurs qui, en réalité, la plupart du temps, on l'a déjà dit, mais suivent à la lettre la loi. Ils savent jongler avec nos règles et ils savent ne pas franchir la ligne rouge très souvent. Donc on n'a pas de propos incriminés et donc on a du mal à les expulser, on a du mal à condamner, etc. C'est aujourd'hui le vrai problème. Non pas que nos lois sont mal adaptées, mais en réalité, on a des gens qui sont des vrais lutteurs et qui savent justement agir avec ces lois.
On en a déjà beaucoup parlé ce matin, mais je voulais également votre avis parce que ce n'est pas le même plateau. Sandrine Rousseau qui attaque violemment les activités du président de la République lors de ses vacances. La députée de la NUPES ne supporte pas que Emmanuel Macron fasse du jet ski. Non, mais c'est très sérieux.
Enfin, il fait
c'est
du canoë aussi.
Oui, il en fait, mais il fait aussi du jet ski. Et donc, elle a été alertée, ou du moins, elle a réagi à un tweet de Nils Weilk. Et voilà ce qu'elle dit. Ceci confirme cette impression persistante qu'il ne comprend pas le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, il est criminel de ne pas le comprendre. Est-ce que par ce nouveau tweet, Sandrine Rousseau vient donner raison à ses opposants qu'il la surnomme la grande inquisitrice, Vincent Roy.
Oui, enfin bon, Sandrine Rousseau nous a déjà habitués à quelques saillies drôlatiques.
Oui.
On n'est pas... oui, enfin c'est un euphémisme. On n'est pas un bon mot près de Madame Rousseau. Moi, je suis confondu, pour être extrêmement franc avec vous, je suis confondu par la bêtise de tels propos, auquel, je le répète, elle nous a habituée, vraiment Madame Rousseau, tout ça nous dépasse. Enfin, comment une députée de la République pourrait tenir des propos aussi niais?
Benjamin Morel.
Oui, bah, tout ce qui est excessif est insignifiant, mais malgré tout, j'ai envie de défendre un peu Sandrine Rousseau, parfois n'est pas coutume. C'est-à-dire qu'on a, souvenez-vous du discours de Marseille entre les deux tours, où on avait un Emmanuel Macron qui était plus écologiste que Jean-Luc Mélenchon, qui tout d'un coup se faisait un parangon de l'écologie de manière extrêmement caricaturale. Je veux dire, quand vous tenez de tels discours et qu'ensuite, en effet, vous faites du jet ski,
vous auriez préféré voir en trottinette électrique,
c'est
ça ?
Eh bien, vous pouvez vous attendre à ce que les vrais parangons de l'écologie vous tombent en effet sur le dos pour incohérence. Donc, à force de faire du en même temps et d'être, je dirais, de ménager la chèvre et le chou, eh bien, il faut s'attendre à avoir ce type de tweet qui ne fait quand même pas bouger un électeur. Il ne faut pas se
mettre. Monsieur le président de la République, si vous nous écoutez, pour éviter que la bien-pensance vous attaque pendant vos vacances, faites du pédalo.
Oui,
c'est plus simple.
C'est la même Madame Rousseau. C'est la même Madame Rousseau qui voulait aller chez vous pour vérifier si véritablement.
Chez vous.
D'ailleurs, oui. Elle voulait aller chez vous pour vérifier si comment était traité votre petit ami, si vous ne lui laissiez pas faire uniquement la vaisselle, etc. Madame Rousseau, c'était ça. Ce qui n'est pas sans poser une question sur les libertés individuelles. Vous n'avez pas le droit de faire du jet ski. Comment traitez-vous ? Parce qu'elle voulait vraiment s'immiscer dans la famille. Souvenez-vous, c'était il n'y a pas longtemps.
Autre petite thématique, je ne sais pas si vous avez vu, c'est l'information de la journée, malheureusement, le beluga qui avait été découvert il y a plus d'une semaine dans la Seine a dû être euthanasié aujourd'hui après son arrivée en camion à Ouistreham, a annoncé la préfecture du département normand. Alors je pense qu'on a les images du beluga. Les médias ont traité cette information avec énormément d'intérêt, énormément de précision. J'ai même vu des chaînes concurrentes faire quasiment des éditions spéciales sur... Mais pourquoi pas ? Chacun, évidemment, midi à sa porte. Mais ce qui m'a intéressé, c'est le tweet de Jacques Attali. Jacques Attali qui dit « 80 personnes pour sauver un beluga, c'est magnifique. Combien pour sauver de la faim chaque enfant du monde ?» Messieurs, c'est à vous. Je ne dis plus rien. Qui veut réagir ?
Il fallait inviter Émeric Caron. Il aurait été excellent. Il aurait été excellent.
Le match
sur le
entre Jacques Attali face à Émeric Caron.
Sur le beluga, c'est Caron qui doit prendre la main. Il est exceptionnel.
Vous me passerez le mauvais jeu de mots, mais le tweet de Jacques Attali pour parler du beluga, c'est vraiment un caviar pour les chansonniers et les humoristes.
Oh, oui,
là, ils vont vraiment pouvoir se lâcher à la rentrée.
Très bien, je ne suis pas sûr. Mais bon.
Non, mais excusez-moi, oser écrire ceci, mais ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Pour sauver un beluga, on va pas envoyer un type tout seul en combinaison de plongée, ça pèse plusieurs centaines de kilos, etc. La faim dans le monde, mais ça fait des années qu'on en parle, et puis là, je vais revenir sur les écologistes, la population mondiale explose, et on va arrêter l'agriculture intensive alors qu'il faut nourrir de plus en plus de personnes.
Ça me paraît compliqué. J'ai l'impression que ce compliqué. Soir, c'est l'émission où on s'est le moins compris tous ensemble. C'est vraiment l'impression que j'ai, parce que Jacques Attali, qui vous explique si vous traduisez, c'est que c'est très bien de s'occuper d'un beluga et de mobiliser tous les moyens possibles. Il serait bien également de mettre tous les moyens pour sauver les enfants qui meurent de faim.
Ce tweet...
C'est de la démagogie.
Ah, c'est de la monnaie.
Mais en tout cas, il a le mérite de nous rappeler qu'il y a chaque jour dans le monde 10 000 enfants par jour qui meurent de faim. Et ça, c'est tout l'intérêt, à mon avis, de ce tweet.
Et vous parliez du traitement de chaînes concurrentes. Il faut quand même voir que notre degré d'indignation est très lié, en fait, à la médiatisation d'une affaire. Prenez ce qui se passe en Ukraine, prenez ce qui se passe au Yémen. La famine et la mort de milliers d'enfants au Yémen de cette famine, les photos sont affreuses, mais elles sont beaucoup moins diffusées, donc forcément, la compréhension est moindre. Donc là, entre le beluga et les enfants dont on ne parle pas, je peux comprendre également le fond du tweet de Jacques Attali.
Oui. Il aurait dit 400 000 morts au Yémen, on n'en parle pas, alors qu'on est en édition spéciale sur l'Ukraine depuis des mois. Là, j'aurais trouvé ça très intéressant.
En tous les cas, c'est intéressant de voir la déclaration de Jacques Attali. Est-ce que tout le monde pense cela, mais personne ne le dit ? Il a posé le débat. C'est quasiment terminé. Je vais demander aux personnes en régie si ils ont compris ce qui allait se passer, et je veux qu'on termine et qu'on vraiment termine sur une bonne note, c'est-à-dire qu'on rentre à la maison la tête sereine. Est-ce que vous avez compris, chers amis en régie, les explications de Benjamin Morel et Georges Fenech sur l'affaire Hassen IQ-SEN. Oui ou non, dites-le-moi rapidement parce que
non. Non, mais on revient demain pour continuer.
Alors, ils me disent c'est compliqué à comprendre. Alors, oui. Puisque vous ne voulez plus Georges Fenech, je vais demander à Benjamin Morel. Moi. Si j'ai bien compris, donc, le Conseil d'État va rendre sa décision le 28 août. Non. Attendez, il rend sa décision le 28 août. Le 28 août, on sait si l'arrêté qui a été suspendu par le tribunal administratif est confirmé par le Conseil d'État. Ce qui voudrait dire que Hassen IQ-SEN reste, c'est sûr.
Alors, oui. On sait le 28 août si le jugement du tribunal administratif est confirmé. Si jamais il est confirmé, il reste pour l'instant sur le territoire. Mais il va encore y avoir un autre jugement. C'est-à-dire que là, on ne s'intéresse qu'à l'exécution.
Il y aura un autre procès.
C'est le même procès.
Sauf que là, on était dans une mesure d'urgence. C'est-à-dire
d'accord.
Que, grosso modo.
Mais c'est-à-dire qu'il y a une autre audience, par exemple ?
Oui. Il y aura une autre audience.
Avec
il y aura
les mêmes
un
parties.
Autre jugement. À ce moment-là, ouais. Il pourra peut-être être expulsé. Mais l'inverse est également vrai. C'est-à-dire
donc, c'est peut dire qu'il peut être expulsé le 28,
être expulsé.
Mais revenir dans, une autre,
exactement.
Dans un autre moment.
Si le jugement, au fond, lui est favorable.
Donc, le sujet,
revenir.
Donc le feuilleton et l'affaire Hassen IQ-SEN ne sera pas terminé le 28 août prochain.
C'est pour ça qu'il faut rester sur CNews pour bien comprendre.
Eh ben c'est clair.
Vous pensez que vous alliez en être débarrassé très vite
non,
et finalement
vous savez,
non.
Je ne lâche rien. C'est-à-dire que quand je ne comprends pas, déjà je le dis. Vous avez des présentateurs ou des journalistes qui vous font des signes de la tête comme si vous comprenez, vous ne comprenez pas. Moi je le dis. J'ai la liberté de dire je n'ai pas compris, il faut qu'on le répète. Puis je fais toujours attention à ce que les téléspectateurs comprennent également. Parce que vous êtes des techniciens, vous êtes des grands techniciens. Mais vous savez, par exemple, non, mais Benjamin Morel, c'est comme Zidane, il fait des gestes que ses collègues, ils n'arrivent même pas à
savoir. Je veux bien reconnaître que ce n'est pas la partie la plus facile du droit que la procédure administrative.
Merci à tous les quatre. C'était un plaisir de vous avoir ce soir. On se retrouve demain matin, je vous promets, on sera peut-être un peu plus clair.